je crois que nous allons reprendre nos travaux, comme on dit dans les colloques qui se respectent. Alors, je ne sais pas si nous allons avancer dans la mise au clair de ces notions de sacré et de divin et de saint qui tournent, se font entendre, insistent à mon avis de la bonne manière depuis le début, qui ont déjà suscité des réactions diverses et variées, et même le moment venu des mouvements d'humeur, mais c'est excellent. Je ne sais pas, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer en donnant la parole à des personnalités qui ont chacune leur singularité et qui ont chacune leur manière de venir se greffer sur ce thème à leur manière. Je donne d'abord la parole à Marie Dariussec. Je ne dirai pas sur la première conversation, on ne présente pas Marie Dariussec, on peut aussi la présenter. Des indications vous ont été d'ailleurs données. Je n'insisterai pas sur le fait qu'elle est née aux Pays-Bas, je ne suis pas sûr que ça ait un intérêt immédiat pour le sujet d'aujourd'hui. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, publiés presque tous, si j'ai bien vu, chez Paul d'ailleurs. Tom est mort est un des derniers qui a suscité, il me semble, quelques échos à un moment donné, quelques agitations. Et elle a publié également, en même temps que Tom est mort, Claire dans la forêt aux éditions des femmes en 2004. Tom est mort est de 2007. Et donc, elle a prévu de nous parler de quelque chose qui se présente comme un oxymore, mais elle va certainement s'expliquer là-dessus, c'est-à-dire la chute vers le haut. Je lui donne la parole.
Merci. Je voudrais proposer ici quelques exemples dans la littérature qui me semblent, disons, des moments de certains textes où il me semble qu'on s'approche du sacré. Je ne sais pas bien ce que c'est que le sacré, mais la façon dont, disons, les moments où je peux le repérer en littérature sont des points d'extase. C'est comme ça qu'il me semble qu'il y a une espèce de porte d'entrée dans le sacré, là. C'est des exemples complètement subjectifs qui au fond sont des goûts littéraires. Hein. Je vous propose un parcours qui est zigzagant, qui est aussi une sorte de rêverie, où je vais lire pas mal d'extraits du texte. Et ça, vous pouvez avoir une attention flottante aussi, parce que je crois que c'est des choses qu'on attrape, des moments qui font penser, vous savez, au moment où la poussière tourne dans les rayons de soleil, voilà. Un moment un peu hypnotique où on peut se laisser rêver sur des passages de texte. Peut-être qu'entre extase et sacré, le lien, c'est un moment de dissolution du moi. Alors certains comblent ce moment avec l'idée de Dieu et d'autres se contentent d'assister au vide, de cette absence du moi qui les rend poreux au monde. Quand le moi s'évanouit, on est mieux peut-être traversé par le monde. Il y a un point d'écriture qui peut être permis à ce moment-là. Joyce a appelé ce moment des épiphanies, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres auteurs ont évoqué ce moment-là. Une des vignettes quasiment de l'extase, vous la connaissez sans doute, c'est dans L'Idiot de Dostoïevski, quand le prince Mishkin est au bord de la crise d'épilepsie, et que c'est un moment à la fois atroce, insupportable, dit-il, mais aussi, alors ça dure plusieurs pages, hein, c'est dans la traduction de Markovitch, il parle de tranquillité supérieure, joie complète et lumineuse, espoir plein de raison, minute de sensation au degré ultime de l'harmonie, de la beauté, c'est des petits extraits, hein. Un sentiment de plénitude invraisemblable, insoupçonné, un sentiment de mesure, d'apaisement, celui de se fondre en prière extatique dans la synthèse supérieure de la vie. Mais un peu plus loin, à un moment, disons, où le raisonnement affleure davantage, non, ces moments n'étaient qu'un pur accroissement de la conscience de soi, s'il avait fallu exprimer cet état par un seul mot, d'une conscience de soi et en même temps d'une impression de soi parfaitement concrète, mais aussi d'une crise. Et au dernier moment avant la crise, il avait pu avoir le temps de se dire d'une manière claire et consciente, oui, pour ce moment-là, on peut donner toute sa vie. Alors bien sûr, ce moment en lui-même aurait valu toute une vie. Le texte est un peu la forme d'un ruban de Moebius, c'est-à-dire que le narrateur est tellement omniscient qu'il entre et sort de la conscience du prince Mishkin, alors que le moi, justement, n'est plus là. Si à cette seconde, c'est-à-dire au tout dernier moment avant la crise, il avait pu avoir le temps de se dire d'une manière claire et consciente « Oui, pour ce moment-là, on peut donner toute sa vie », alors bien sûr, ce moment en lui-même aurait valu toute une vie. Mais cette seconde, le moi n'est plus là. Il plonge dans la crise d'épilepsie. Donc, c'est des moments où on est toujours au bord du disciple, où la subjectivité est en train de disparaître. On n'est plus là quand ces moments arrivent. Et l'autre grande vignette, pour le coup, dans la littérature française, c'est le moment de l'accident chez Rousseau, dans les rêveries du promeneur solitaire. C'est un moment très, très célèbre aussi. C'est dans la deuxième promenade. C'est le 24 octobre 1761, où Rousseau est en train d'herboriser du côté de Ménilmontant. Déjà, j'aime bien cette idée. Il herborise aussi à Denfert-Rochereau, parfois. Donc, il y a des champs, des collines, des prairies. Et vous savez, à Ménilmontant, donc dans la descente, arrive un carrosse précédé d'un chien, d'un matin, qui galope, qui court. Et Rousseau est bousculé par le chien et tombe sur la tête. Et quand il se réveille, ben, je vais vous lire. La nuit s'avançait, j'aperçus le ciel, quelques étoiles, un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j'aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang m'appartint en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant auquel, chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans toute l'activité des plaisirs connus. Donc il est amnésique un certain temps, et au bout de plusieurs heures, quand même, il retrouve Rousseau et il rentre chez lui, dans une sorte, pour le coup, de chute. Et quand il se réveille, quand il se réveille de cet accident, la première chose qu'il voit, c'est le ciel, les étoiles. Et il y a un effet comme ça d'élévation, bien sûr, mais que j'ai essayé maintenant de repérer davantage dans cet oxymore, effectivement, que j'appelle la chute vers l'eau, qui est simplement le fait de tomber dans le ciel. Je ne sais pas si vous aviez vu quand le Grand Palais a rouvert, c'était, je ne sais pas, il y a 3-4 ans, il y a eu une très très belle installation d'un artiste qui s'appelle Thierry Dreyfus, qui avait, donc vous voyez, le Grand Palais c'est entièrement vide, maintenant c'est une grande carcasse de lumière. Il avait très simplement installé des miroirs, comme ça, légèrement inclinés, ce qui fait que quand on pensait qu'on allait se voir dans le miroir, on n'y était déjà plus, mais par contre, on voyait tout le ciel, et on tombait dans le ciel. Et le jour où j'étais allée, il y avait des petits nuages blancs sur un ciel bleu, et l'inclinaison comme ça des miroirs, et l'absence de sa propre image, faisait vraiment une sorte d'appel vers le haut. Bon. Cette chute vers le haut, on la trouve chez, en fait, j'ai lu pas mal de choses ces derniers temps, par exemple chez un auteur chez qui on n'attendrait peut-être pas, c'est Philippe Dian. On ne l'attendrait peut-être pas parce que c'est un auteur qu'on pense assez concret, assez matériel, un auteur réaliste au fond. Mais il y a un très beau texte de lui sur Bram Van Velde, où pour essayer de décrire les œuvres de Bram, il invente une petite nouvelle où en fait quelqu'un, qu'on peut imaginer comme étant le peintre, saute par la fenêtre mais ne tombe jamais. Et c'est un rapport de police d'un brave flic qui essaie de décrire ça, un corps qui tombe et qui n'atterrit jamais. Et chez Yannick Enel, justement, il y a aussi dans tous ses livres, il y a soit des chutes vers le haut, comme par exemple dans, ça doit être dans Évoluer parmi les avalanches, où il imagine que le 11 septembre, les gens qui ont sauté par les fenêtres du World Trade Center sont montés, en fait. C'est une très belle image. Et il y a aussi des chutes sans fond, comme ça. Bon. Chez Michaud, dans ses expériences de la drogue, où, comme vous le savez, on est déjà au-delà de la drogue. Enfin, il en prend pour accéder à une forme d'extase, mais en maîtrisant aussi les effets, en étant capable de revenir et puis d'écrire. Il y a un très beau passage dans Le ciel ouvert, justement. Il est en montagne, donc il a pris une drogue qui le déçoit, dans les faits le déçoit, je ne sais pas laquelle c'est, et il lève la tête vers le ciel. Instantanément dépouillé de tout comme d'un par-dessus, j'entrais en espace. J'y étais projeté, j'y étais précipité, j'y coulais. Par lui happé violemment, sans résistance, comme soustrait à la terre, me sentant emporté invinciblement vers le haut, entraîné toujours plus loin, grâce à une merveilleuse, invisible lévitation dans un espace qui ne finissait pas. Et un peu plus loin, l'espace m'espacifiait. Autour de Michaud, il y a des très belles réflexions de Catherine Millot, qui est là aussi aujourd'hui, où justement elle insiste sur le fait que dans ces moments-là, l'espace n'est plus du tout à trois dimensions avec les lois de la physique telles qu'on les connaît, en particulier la chute des corps. Ça ne marche plus comme ça. Et le moi s'espacifie justement, c'est-à-dire que dans ce mouvement d'absence du moi, le moi s'élargit à la dimension de l'espace, mais sans effet narcissique, au contraire, en disparaissant. Et l'espace se replie aussi sur le moi. Enfin, y a des mouvements comme ça où l'intérieur et l'extérieur n'existent plus. D'ailleurs, Catherine Millot cite souvent cette phrase de Michaud qui est absolument magnifique et vertigineuse. Contempler, c'est être reçu. On entend aussi la prière, peut-être. Un mot sur Louise Bourgeois, puisqu'elle est présente à Beaubourg. Des petites phrases comme ça. C'est aussi quelqu'un qui parle très bien de son travail, à sa façon sans doute un peu psychotique, mais très claire. Au départ, mon travail, c'est la peur de la chute. Par la suite, c'est devenu l'art de la chute. Comment tomber sans se faire mal? Puis, l'art d'être ici, en ce lieu. Elle faisait ce commentaire autour d'une œuvre de jeunesse qui s'appelle Girl Falling, la fille qui tombe, qui est un dessin de, justement d'une chute vers le haut. À un autre endroit, elle dit justement sur cette idée que quand on entre dans l'extase, on n'est déjà plus là, donc comment la dire, comment l'attraper? Mes pièces proviennent d'un état de conscience provoqué par une vision inattendue et fugace de la nature. Ce caractère précisément insaisissable m'a donné envie de le fixer, de peur de le perdre. C'est dit très simplement, mais c'est vraiment ça. Si l'œuvre recèle quelque chose de magique, je la considère comme réussie. Et plus loin, il ne s'agit pas de la nature, mais de faire l'expérience d'un lieu et d'un moment donné. Je crois aussi que c'est une définition très simple de l'extase. Parce qu'il n'y a pas que le lieu, l'espace qui subit des distorsions, et évidemment aussi le temps. L'expérience d'un lieu et d'un moment donné. J'ai envie de lire maintenant un petit passage, c'est des zigzags, hein, mais d'Absalon, Absalon, de Faulkner, qui est mon livre de chevet. C'est un moment assez simple où Quentin est en bateau, et qui tombe à l'eau, mais. Et une description d'une extase, à mon avis. Lui tout seul, à la rambarde, avec un cigare peut-être, regardant le scintillement de la ville clignoter, s'éloigner, disparaître. Puis tout mouvement cessa, et le bateau, immobile et sur place, resta suspendu aux étoiles même par les deux câbles de fumée pailletés d'étincelles que les cheminées laissaient couler vers le ciel. Et qui sait quelle pensée, quelle pesée et quelle tri sévère dans son esprit à lui, peut-être appuyé là, dans cette solitude, parmi la fumée et le halètement des machines, et touchant presque à la réponse, percevant presque toutes les pièces du jeu de patience qu'elle constituait, dans leur attente sournoise, immédiatement hors de sa portée, mélange inextricable, impossible à reconnaître, mais sur le point de se grouper et de former l'image qui lui révélerait tout à coup, comme dans un éclair, la signification de sa vie tout entière. Rien que ça. Et un autre moment, à mon avis, Absalon est entièrement fait de moments d'extase, même dans les moments les plus apparemment narratifs. Toujours Quentin, sur le fait que le temps peut être réduit à un seul point où toutes les générations sont une seule mise en abîme, où on est le père de son propre père et l'enfant de son propre enfant. Oui, reprit Quentin, les deux enfants, et il pensait, oui, peut-être sommes-nous mon père, tous les deux. Peut-être une chose, une fois arrivée, n'est-elle jamais fixée. Peut-être ce qui arrive n'est-il jamais passé, mais semblable à des cercles de rides sur l'eau lorsque le caillou a coulé, à des cercles qui vont s'élargissant, s'étalant, leur air rattaché par un mince filet d'eau comme par un cordon ombilical à l'air voisine qu'elle alimente, à alimenter, continue d'alimenter, même si elle se compose d'eau à une température différente, de molécules différentes, pour avoir contemplé, senti, réverbéré, reflété avec des nuances différentes, le ciel, infini et immuable, peu importe. L'écho liquide de ce caillou dont elle n'a même pas vu la chute se répercute à son tour à travers sa surface de la même façon que dans le premier cercle, au rythme original et permanent. Je ne peux pas croire là qu'il ne pense pas à Dante. Et il y a un petit passage de Dante, c'est dans le purgatoire, où il y a cette espèce de même approche du caillou tombant dans l'eau avec le rayon de lumière, comme si on décrivait un phénomène physique bien connu, très précis. Mais en fait, c'est décrit d'une telle façon, ça se réverbère déjà tellement dans la phrase, exactement comme chez Faulkner, là, qu'on n'a plus finalement qu'une seule image, la lumière, le rayon, le caillou, l'eau. Donc c'est dans le purgatoire. Comme venu de l'eau ou du miroir, le rayon rejaillit du côté opposé et remontant de la même façon qu'il est descendu et s'écarte d'autant de la pierre qui tombe avec égal parcours, comme l'expérience et l'art le montrent. Je ne sais même pas très bien ce que ça veut dire, mais il me semble qu'on est comme ça, voilà, ça vibre devant les yeux. Un grand lecteur de Dante, c'est Mandelstam, poète russe, hein, qui est mort au Goulag en 1938, et qui, dont le parcours reflète aussi le désastre du XXe siècle. À un moment où déjà, pour le dire platement, ça craint pour lui, il écrit « Entretien sur Dante », qui est aussi un livre où il y a tout. Il essaie de décrire comment chez Dante, les métaphores se réverbèrent justement sans cesse sur les métaphores, et qu'on ne sait plus très bien pour quel objet est mis tel objet. Vous savez, une métaphore, c'est un objet qui est mis pour un autre objet. Et ça se réverbère comme ça. Alors, il cite par exemple un petit passage vertigineux que je vais vous lire. Je ne sais pas de qui est la traduction. C'est dans l'enfer. Comme le paysan se reposant sur le coteau, pendant le temps où le flambeau du monde nous tient sa face le moins longtemps cachée, à l'heure où la mouche fait place au moustique, voit des lucioles dans la vallée, là où le jour il vendange et laboure, ainsi resplendissait la huitième bolge, d'autant de flammes, comme je le vis, dès que je fus là d'où le front se découvre. Et comme celui que les ours vengèrent vit le char d'Élie à son départ, quand les chevaux montèrent droit vers le ciel, si bien qu'il ne pouvait à le suivre des yeux voir autre chose que la flamme seule qui s'élevait comme un petit nuage, ainsi chacune s'avançait dans le creux de la fosse et nul ne montait son butin, car chaque flamme cache un pêcheur. Donc tout monte vers le haut, les chevaux, les nuages, les flammes aussi peut-être. Et Mandelstam appelle ce passage une ascension prodigieuse. Essayez donc d'indiquer, dit-il, où commence ici le second membre de la comparaison, ou le premier, etc. Et il me semble qu'à cette époque-là, en URSS, le pouvoir n'a pas encore vraiment commencé à le persécuter, mais disons qu'il a de plus en plus de mal à passer la censure parce que, dit la censure, il emploie trop de métaphores et qu'on ne comprend pas ce qu'il écrit, Mandelstam. Sa réponse à ces critiques-là, c'est « J'écris ainsi parce que la terre gronde de métaphores. » Et il me semble que ce déplacement, comme ça, cette mise en abîme permanente des objets les uns dans les autres, qui monte ou qui descend d'ailleurs, c'est justement une façon d'échapper, de la seule façon possible, à un pouvoir politique, oppresseur et persécuteur. C'est une sorte de chute vers le haut, parce qu'il sait très bien qu'il tombe, Mandelstam, il sait très bien qu'il va à sa perte, à sa chute, mais il le fait en montant. Il dit aussi à un autre moment, quand Dante prononce, écrit le mot soleil, il y a tout ce qu'on sait du soleil qui vient par-dessous. Il y a toutes les fois où nous-mêmes on a utilisé le mot soleil, il y a toutes les fois où on l'a lu dans un texte. Et pour tous les mots, c'est pareil. Et donc, il a une vision de la langue, Mandelstam, comme un millefeuille, pour dire une image un peu plate aussi, mais chaque mot vient accompagné de toute une profondeur de mots. Les mots se répondent les uns les autres. Et là aussi, on échappe à toutes les censures. Et ça a quelque chose d'extatique. À un autre moment, il dit, « Si je ressuscite un jour, ce sera pour dire « le soleil brille ». À ce moment-là, on est en plein processus stalinien. Enfin, il y a une sorte de décalage de la parole de Mandelstam par rapport à toute la parole du pouvoir, qui est vraiment de l'ordre de l'échappée. Je lis encore un poème de Mandelstam. Alors là, on est un an avant sa déportation. Et il me semble que là aussi, il y a une échappée vers le haut, une chute vers le haut. C'est un poème très simple. « Oh, combien j'aimerais, de tous inaperçus, suivre d'un vol le rayon où je ne suis pas du tout. Toi, rayonne dans le cercle, il n'est d'autre bonheur, et de l'étoile apprends quel est le sens de la lumière. Il n'est de rayon, il n'est de lumière, que puissant d'un murmure, réchauffé d'un balbutiement. Et je voudrais te dire que je chuchote, que mon murmure, mon enfant, te confie au rayon. » Être confié à un rayon de soleil, c'est pas mal, en mai 1937, à Voronezh, en exil, en URSS. Pour finir, il me semble que Mandelstam, tout ce qui répond au fond à Staline, sans cesse, c'est un peu ce que dit très brièvement la phrase de Pascal, « Qu'y a-t-il dans le vide qui puisse nous faire peur ?» Qu'y a-t-il dans le vide qui puisse nous faire peur? Je ne sais pas ce que Staline aurait répondu à Pascal face à ça. Encore deux extraits, parce qu'ils sont indispensables quand on parle d'extase et de chute vers le haut. Un grand lecteur de Mandelstam, Paul Celan, juste deux quatrains très courts. Évanouissement, un feuillage de tilleul pour les précipiter vers le haut. Cliquetis de psaume. La hauteur tourbillonne en se creusant plus violemment encore que vous. On est à la fin des années 60 et il est proche de se suicider. Ensuite, pour l'extase, je conclue là-dessus, évidemment, et pour le mouvement d'élévation, évidemment, tout Rimbaud, que tous ces poètes ont lu, sauf donc, c'est par anachronisme. Aube, j'ai embrassé l'aube d'été. Dans tout le poème que je vais peut-être pas relire là, il y a un immense mouvement vers le haut, vers la cime argentée des sapins, les voiles de la déesse qui sont levées un à un. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Oui, mais au réveil, comme vous savez, il était midi, le zénith. Et je termine par Ville de Rimbaud, toujours. Sur les passerelles de l'abîme et les toits des auberges, l'ardeur du ciel pavoise les mâts. L'écroulement des apothéoses rejoint les champs des hauteurs où les centauresses séraphiques évoluent parmi les avalanches. C'est un petit clin d'œil à Yannick Enal, puisque un de ses romans que j'aime beaucoup s'appelle « Évoluer parmi les avalanches ». Voilà.
Peut-être déjà dire deux, trois choses sur ce que vous venez de nous dire d'une manière très, très agréable à suivre, très agréable à entendre ce parcours comme ça, de moments d'écriture. Je crois qu'on est vraiment en train de toucher quelque chose qu'on sait depuis un moment, qui n'est pas une explication partant des concepts, comme on croit que peut-être à tort que la philosophie propose, qu'est-ce que c'est le sacré, qu'est-ce que c'est le divin, et vous choisissez de parler de ce que vous appelez des points d'extase. Il me semble que c'est la bonne méthode pour avancer vers quelque chose qu'on n'a peut-être pas besoin d'appeler tout de suite, ni le sacré, ni le divin d'ailleurs, mais plutôt quelque chose qui est une expérience que l'écriture nous transmet, mais qu'on peut faire par nous-mêmes. D'ailleurs, si on ne la faisait pas par nous-mêmes, si on ne la refaisait pas en lisant, comment est-ce qu'on pourrait adhérer à ce que nous dit l'écrivain? Je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une expérience de l'extase ou de point d'extase, de quelle façon ça nous parle, et de quelle façon ça vient quand même en interruption de tout ce à quoi on est porté à croire, de tout ce qu'on est porté à faire, à vivre communément aujourd'hui. Et ça donne le côté précieux de la littérature de ce point de vue-là. Alors c'est à la fois singulier, bien sûr, à chaque fois singulier. En même temps, moi je suis frappé du fait que vous avez cité, je parlais de tous les auteurs que vous avez cités, j'en ai retenu trois quand même, dont deux Russes, hein, il y a Dostoïevski et Mandelstam. Et je crois précisément que c'est en partant de ce que la littérature nous dit, dans la mesure notamment où elle nous transmet ses expériences irremplaçables, qu'elle nous donne une forme d'intelligence, de la marche catastrophique des choses dans laquelle s'engage tout un ensemble de nations, tout un ensemble de continents. J'appellerais ça dans des points de résistance et de lumière, d'illumination et de résistance à la fois. Comment comprendre ce qui est arrivé à la Russie si on part pas en effet de Dostoïevski, du prince Mishkin et puis de Mandelstam? Comment comprendre ce qui s'est passé en Allemagne si on ne passe pas par Stéphane, évidemment? Il y a tout ça qui est dans ce que vous avez dit. Et comment comprendre quelque chose à ce qui ne va plus du tout, supposé que ça ait bien marché à un moment donné, dans l'histoire des États-Unis, sans passer par Faulkner, effectivement, qui est effectivement un visionnaire tout à fait extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé le passage que vous avez cité. Il y a deux textes que je lis tout le temps, c'est Absalon et c'est Décembre 8, ce qui est aussi un texte absolument extraordinaire. Alors, est-ce que c'est un hasard si, par exemple, Faulkner est quand même un auteur chrétien et un auteur qui s'appuie constamment sur des références à la Bible? Alors, qu'est-ce qu'il en fait d'autre chose? Et est-ce qu'il y a aucun rapport entre le fait qu'il transcrit des expériences d'extase et le fait qu'il y a toujours le fond biblique qui est là chez Faulkner? Est-ce qu'il n'y a aucun rapport entre les expériences d'extase qui sont racontées dans l'idiot, mais aussi à propos d'Alyosha dans les frères Karamazov, c'est à peu près des personnages parents, sans se référer à ce que c'est que le christianisme orthodoxe? Je ne crois pas. Donc la coupure entre il y aurait des expériences singulières, puis d'un autre côté il y aurait des religions qui ne nous intéressent pas beaucoup, qui d'ailleurs sont dogmatiques, affreuses, et heureusement elles sont moribondes et donc on ne s'en occupe pas, je crois que c'est un peu une illusion, et que la littérature c'est une façon de faire vivre des choses qui sont par ailleurs inscrites dans un fond que j'appelle sûrement pas culturel, mais que j'appelle spirituel en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, c'est très bien dit, oui. Je pense aussi, j'en parlais récemment, mais il y a quelques temps, j'ai relu, apparemment c'est dans les novembre, mais j'ai relu le texte qu'avait écrit Salman Rushdie juste après avoir été condamné, donc avoir reçu sa fatwa. Et il essaie d'expliquer pourquoi il a écrit autour, disons, des versets sataniques, en disant, voilà, moi, à l'époque, il se présente comme athée, musulman, de culture musulmane, mais athée, et il dit, voilà, j'ai entendu parler des mystiques, je lis les textes des mystiques, je veux bien croire à ce qu'ils racontent, je veux bien croire qu'ils ne mentent pas, mais mon seul accès à ça, c'est le roman, c'est-à-dire, j'essaie d'imaginer dans des personnages, entre autres de mystiques, ce qu'il peut y avoir là dans cette expérience. Et c'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des passerelles constantes, en particulier par l'imagination, qui est toujours un peu la folle du logis, entre l'expérience des mystiques et, moi par exemple je suis un écrivain athée, mais je ne cesse d'aller voir dans l'univers, dans le monde spirituel, en essayant de trouver des passerelles, effectivement. Et je pense que ça peut, dans certains univers, ça peut créer des gros emmerdements, comme a eu Salman Rushdie, parce qu'il y a quelque chose d'interdit là-dedans. L'imagination se mêlant de l'expérience religieuse, c'est très mal vu par les dogmatiques religieux.
Voilà. Absolument. Peut-être, on va passer la parole à Yannick Hennel tout de suite, et après, la salle, quand on aura fini la table ronde. Donc, Yannick Hennel, je vais vous dire une chose sur Yannick Hennel que vous ne saviez pas, c'est qu'il est né à un an avant mai 68. Donc, il n'a aucun souvenir conscient de mai 68. Donc, on est obligé, chaque fois qu'on va, de lui raconter un petit peu. Mais il en tient compte. La preuve, c'est qu'il a déjà beaucoup écrit des livres passionnants, essentiellement des romans. On a parlé à l'instant de Évoluer parmi les avalanches, et le dernier qui s'appelle Cercle, qui est chez Gallimard, qui a eu le prix Décembre en 2007. Et c'est aussi, bien entendu, l'animateur excellent de l'excellente revue Ligne de Risque, fondateur et animateur de la revue Ligne de Risque, avec son collègue. Béronis, François Béronis, il va nous parler de ce qu'il appelle révélation des phrases. Là aussi, je crois que nous allons passer par ce qu'on peut appeler la révélation littéraire. un homme fait irruption sur la place du marché. Il tient une lanterne allumée en plein jour et crie « Je cherche Dieu. Je cherche Dieu. » Ceux qui sont rassemblés sur la place du marché se mettent à rire. Ils rient tous à la fois. Ils s'esclaffent. Dieu s'est-il égaré comme un enfant, disent-ils ? Ou bien se cache-t-il quelque part ? A-t-il peur de nous ? Alors l'homme à la lanterne allumée en plein jour se précipite au milieu d'eux et les perce de ses regards. Où est Dieu ? Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous ses meurtriers. Vous avez reconnu la parabole de la mort de Dieu racontée par Nietzsche dans Le Gai Savoir. Contrairement à l'idée folklorique qu'on se fait de Nietzsche et de l'énoncé « Dieu est mort », il ne s'agit pas d'une déclaration en faveur de l'athéisme. Nietzsche ne dit pas qu'il n'y a pas de Dieu, ni même qu'il faudrait en finir avec la divinité. En disant « Dieu est mort », il ne proclame pas une opinion, il fait un constat, Dieu a été tué. Nietzsche rapporte la mort de Dieu à la criminalité des hommes. Dieu a été liquidé par les humains eux-mêmes. Nous l'avons tué, vous et moi, dit-il. Nous tous, nous sommes des assassins. On se souvient au passage que Rimbaud, 5 ou 6 ans plus tôt, écrit dans Les Illuminations, voici venu le temps des assassins. Ce que Nietzsche expose à travers ce crime commis en commun, c'est un événement d'une immensité telle qu'on ne peut que s'en étonner. Mais comment avons-nous pu faire cela, se demande l'homme à la lanterne, sous les rires des humains. Il répète dans 3 images le caractère impensable de cet événement. Comment avons-nous pu boire d'un trait la mer tout entière? Qui nous a donné l'éponge pour effacer tout l'horizon? Que faisions-nous lorsque nous détachions cette terre de son soleil? Le rapport des hommes avec le monde, avec la mer, avec l'horizon, avec la terre et le soleil, était fondé sur le sacré. Et voici qu'avec l'élimination de Dieu, il n'y a plus ni mer, ni horizon, ni terre, ni soleil. Le sacré s'est éteint au point qu'on est obligé d'aller en plein jour avec une lanterne allumée. Ce qui m'intéresse, c'est le rire qui accueille l'annonce de la mort de Dieu. J'aimerais parler des rieurs, de ceux qui rient à chaque fois qu'on prononce le nom de Dieu. Ils ne savent pas ce qui existe ou ce qui n'existe pas sous ce nom, mais pourtant ils en rient. Est-ce que ce rire est celui de la désacralisation? Est-ce que c'est le rire joyeux et nécessaire qui met à bas les idoles, qui se délivre des illusions? Pas sûr. Nietzsche fait entendre que ce rire automatique qui essaye de se moquer de l'homme à la lanterne est le rire des assassins. Le rire d'impuissance de ceux qui élargissent les fosses communes. Le rire de détresse de ceux qui n'ont pas compris et qui voient toujours dans la mort un événement heureux. Cela, Nietzsche leur trouve un nom, ce sont les nihilistes. Ce qui se révèle à travers cet événement, c'est un véritable abîme. N'errons-nous pas comme à travers un néant infini, écrit Nietzsche. Cet abîme inaugure une nouvelle époque où l'homme ne remplace pas pour autant Dieu. Car à la place de Dieu, il n'y a rien. Ce rien affecte toutes les valeurs. Et dans les agissements des rieurs de la mort de Dieu, il creuse un désert, quelque chose d'inépuisable, le contraire infini de l'abondance. À travers la parabole de la mort de Dieu, et surtout de l'homme à la lanterne, et des rieurs qui se croient libres, Nietzsche devine qu'à partir de ce crime commis en commun, comme dit Freud, on entre dans une nouvelle époque. L'époque du désenchantement, peut-être. L'époque où le rire des hommes devient assourdissant, où l'on n'entend plus que lui, un rire de plus en plus jaune, de plus en plus teinté de dérision, de cynisme. Car lorsque les valeurs s'effondrent, comme un château de cartes, alors l'homme lui-même est pris dans cet effondrement, et avec lui toutes les croyances des hommes, même cette croyance en l'incroyance qui agite les rieurs. Avant de briser sa lanterne, celui qui a annoncé la mort de Dieu prend soin de dire que cet événement est encore en marche et qu'il voyage. Il n'est pas encore parvenu à l'oreille des hommes. Cet événement, je pense qu'on l'entend dans la littérature. La littérature, au XXe siècle, a pris la place de l'homme à la lanterne allumée en plein jour. Elle fait voir, elle révèle. Je ne sais pas si elle est du côté du sacré ou du profane, ni l'un ni l'autre, sans doute. Elle est le lieu où l'un et l'autre se rencontrent. Elle les fait parler. Elle-même ne croit rien, elle montre. Ainsi s'écrit-elle contre les rieurs, ceux qui croient savoir. Lisez Moby Dick de Melville. Lisez Les Somnambules d'Hermann Broch. Lisez Le bruit et la fureur de Faulkner. L'innommable de Samuel Beckett. Les récits de la Colima de Harlem Shalamov. Lisez tous les grands livres de la littérature du XXe siècle. D'une manière ou d'une autre, qu'ils soient traversés par l'expérience de la guerre, de la folie, du goulag, des camps d'extermination ou de l'exil, ils ont tous un rapport avec l'événement de la mort de Dieu. Que leurs auteurs soient croyants ou athées n'est pas la question. La littérature révèle la mauvaiseté fondamentale qui structure le monde. S'il existe une expérience qu'on peut qualifier de spirituelle après Nietzsche, elle consiste à penser la manière dont les humains n'ont cessé de se détruire jusqu'à ne même plus être les maîtres de leur mauvaiseté. Cette expérience spirituelle, autrement dit, consiste à faire entendre la mutation du mal à travers le temps. Je propose que nous appelions littérature précisément cela. Ce qui, à travers le temps, fait entendre la mutation du mal. J'aimerais maintenant vous parler d'une deuxième scène. Elle n'est pas sans rapport avec la parabole de Nietzsche. C'est une scène qui est dans Proust, dans « À la recherche du temps perdu », vers la fin d'Albertine disparue. C'est presque un détail, ça fait trois lignes. Mais il me semble que c'est un détail qui, comme l'homme à la lanterne, va éclairer un peu notre propos. Vous vous souvenez que le narrateur de la recherche du temps perdu cherche, entre autres, à retrouver les sources de la vivonne. Ce projet l'obsède, et bien sûr, tant qu'il cherche à trouver la source de cette rivière d'enfance, il ne la trouve pas. Jamais, écrit-il, dans la promenade du côté de Guermantes, nous ne pûmes remonter jusqu'aux sources de la vivonne. Et c'est quand il ne la cherchera plus qu'enfin il la trouvera. En effet, avec son ami d'enfance Gilberte, qu'il vient de rencontrer par hasard, ils ont tous les deux la quarantaine, ils se promènent autour de Combray, du côté de Méséglise, en se rappelant leurs anciennes promenades. Le narrateur s'étonne même de trouver la rivière si mince et si laide, et là, il tombe sur les sources de la vivonne. Et ce que le narrateur prenait dans sa rêverie pour un lieu grandiose, une sorte d'entrée des enfers, n'est en fait, je cite, « qu'une espèce de lavoir carré où montaient des bulles ». Cette petite phrase glacée est à la mesure de la déception. À la source du grand rêve fluvial du narrateur, il n'y a donc qu'un vulgaire lavoir. À travers cette déception, On lit bien sûr ce phénomène bien connu du rétrécissement des lieux que notre mémoire avait élargi avec le temps. Mais ce lavoir carré est aussi le signe d'un passage du sacré au profane. Le narrateur de Proust se faisait une religion des sources de la Vivonne. L'idée même de source lui tenait lieu de sacré. La découverte qu'il fait du lavoir est en un sens une parabole de la perte du sacré. Ou plutôt de sa métamorphose. Car après tout, ici, le vase sacré n'est pas vide. Il s'est juste changé en un objet moins glorieux. Et puis il y a des bulles. Non seulement la source est active, mais elle est effervescente. Une espèce de lavoir où montaient des bulles, dit Proust. On dirait l'ancienne ère sacrificielle, un peu miniaturisée, un peu désertée. On irait aussi dans son ironie une image du baptistère de Saint-Marc, grâce auquel le narrateur de Proust a eu sa grande illumination. La révélation des sources de la Vivonne porte sur la métamorphose de ce qu'on croyait sacré. Il est arrivé quelque chose au sacré, comme il est arrivé quelque chose au temps. Le sacré est maintenant dans le plus profane, dans le plus imperceptible aussi. Ça ne veut pas dire que le sacré n'existe plus, il est mêlé avec le profane, étymologiquement hors du temple, libéré en quelque sorte. Le lavoir carré de Proust est l'image même de ce rapport que la littérature a avec le sacré. Un rapport qui n'est pas forcément dégradé, un rapport qui n'est pas forcément de désenchantement, mais qui enregistre la métamorphose. Ça ne se passe pas dans une cathédrale, ça ne se passe pas dans un lieu spécialement édifié pour l'esprit, ça a lieu avec ce qu'il y a de plus proche, de plus simple, un lavoir. La découverte proustienne porte ainsi sur le déplacement du sacré. Celui-ci existe en sommeil au bout d'une promenade. Il faut une lanterne allumée en plein jour, cette lanterne allumée en plein jour que sont les phrases, pour le détecter. Aucune croyance ou incroyance ici, aucune question de transcendance, au contraire une immanence, celle du dévoilement. Sous l'idée de source, il n'y a qu'un lavoir, mais en même temps, sous ce lavoir, il y a la possibilité d'une effervescence, d'un réveil. Et avec ce réveil, il y a la mémoire du temps. Car à travers la voix de Proust, à travers le lavoir, j'entends toute la littérature qui revient. J'entends les lavandières de Finnegan's Wake de Joyce. J'entends les voix fraîches des nymphes qui accompagnent Nausicaa dans l'Odyssée lorsqu'elle va laver le linge moiré sur la plage et qu'elle rencontre par hasard Ulysse. Vous savez que le mot nymphe signifie source. Le petit lavoir de Proust, dans sa modestie, se révèle ainsi un emblème pour la littérature. Une petite chose, apparemment très loin des grandes orgues du sacré, mais une chose qui ouvre. Il est possible que le sacré d'après la mort de Dieu, soit dans ce qui ouvre, dans le passage furtif, dans l'éclair qui illumine, dans l'épiphanie. Le petit lavoir est une entrée, comme celle des enfers, mais à l'envers. Peut-être une entrée du paradis, un paradis ici-bas qui serait celui du langage. Le petit lavoir de Proust ouvre à chaque instant à ce grand fleuve de langage dont parle Dante et qui est la mémoire de la littérature, cette immense opulence qui semble inépuisable. Si vous trouvez les phrases pour vous mettre en rapport avec le petit lavoir carré, pour en trouver l'accès, alors vous en réveillerez l'ébullition. La meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de vous rendre disponible à cette expérience, de vous rendre disponible à l'imperceptible et de le faire parler. Être ce qu'on appelle un écrivain aujourd'hui, c'est devenir une pure disponibilité, c'est être tout entier disponible au langage. Cela consiste à ouvrir sa vie
pour qu'une telle écoute soit possible, à se délivrer des rapports étroits, à se dégager des attaches, bref, à être dans cet état de flottement libre qu'on appelle l'extase. L'extase, en vous libérant, vous donne accès, comme dit Georges Bataille, il y a une souveraineté apocalyptique de l'extase, c'est-à-dire que l'extase révèle. À l'instant de l'extase, la dimension intérieure du langage s'ouvre, le sacré opère là, dans cette ouverture. Je propose d'appeler sacré, loin de toute religiosité, ce qui se libère dans la jouissance du langage. Cette jouissance du langage est ce qui échappe à la simple langue de communication. Elle est aussi ce qui réplique au visage grimaçant des rieurs, au rire morbide des nihilistes. Merci beaucoup.
J'ai le sentiment, dans ce que vous avez dit, Yannick, qu'il y a deux parties. Il y a une partie sur Nietzsche, et puis une partie sur Proust, qui part de Proust, de l'analyse tout à fait intéressante de ce passage de la recherche, et puis de votre définition à la fois de ce qu'est l'écrivain aujourd'hui, et de ce que c'est que le sacré, puisque c'est lié, puisque vous dites que le sacré pour moi, c'est ce qui se libère dans l'espace du langage. Alors, je suis très content que vous ayez cité, vous soyez référé au paragraphe des savoirs qui s'appelle le forcené, parce que ça met les choses au point, justement, sur un certain nombre de choses, y compris sur ce leitmotiv horriblement vulgarisé, même devenu obscène, de la mort de Dieu, que tout le monde, Michel Onfray, d'autres, nous ressassent quand ils pleurent, etc. Mais justement, je voulais là vous poser une question. C'est un texte très dense, très lyrique, très travaillé, avec de longs développements, différents moments. Et effectivement, le forcené, c'est pas celui qui dit d'abord Dieu est mort, il dit d'abord je cherche Dieu. Comment vous pensez cette espèce de décalage chronologique ou antichronologique entre le forcené qui dit d'abord je cherche Dieu, qui dit après Dieu est mort, nous l'avons tué.
Mais précisément, il est possible que, enfin, dans le texte, quand on le lit, dans le texte de Nietzsche, il est possible que ce soit les rires des humains, les rires qui ponctuent sa première déclaration quand il dit « je cherche Dieu », qui provoque en lui ce retournement, ou plutôt cette conscience. Il comprend, sans doute à ce moment-là, en faisant irruption sur la place du marché, alors que sa quête est encore, je dirais, viable, sa quête du divin, il comprend qu'effectivement, il comprend à travers le rire des humains, il comprend que ce rire est responsable de l'impossibilité de sa recherche. Il ne s'en accepte pas, il n'arrête pas de dire nous, peut-être par pudeur, disons aussi, mais effectivement, moi j'ai tendance à placer ce retournement, cette déclaration de la mort de Dieu dans le rire.
Oui. Ah ben, je pense qu'on peut aussi lire autrement. On peut aussi lire autrement, qui serait de dire finalement, il donne sa vérité la plus profonde, qui est « je cherche Dieu ». Et ensuite, il vient à la vérité qui la précède, dans le temps chronologiquement, si on veut, qui est « Dieu est mort ». Donc, il est celui qui annonce « Dieu est mort », mais ils sont déjà pas capables d'entendre « Dieu est mort ». Donc, comment peuvent-ils entendre que de « Dieu est mort » sort « je cherche Dieu », ce qui, sans doute, pour lui, s'appelle « Dionysos ». C'est-à-dire, voilà, bref.
Il saurait encore dire à la fin du paragraphe « je cherche Dieu ».
Il pourrait encore dire « je cherche Dieu ». Il se contente de dire « d'ailleurs, mon temps n'est pas encore venu ». Ce qui veut dire qu'il y a toute une méditation, d'ailleurs, sur le temps. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la prophétie? Vous avez plutôt les prophètes d'aujourd'hui, c'est au fond les écrivains. Parce que vous dites « celui qui se met à la place de l'homme à la lanterne », au fond, c'est l'écrivain d'aujourd'hui. C'est ça que vous avez dit un petit peu.
Bon, je crois que c'est pas très neuf de dire ça. En effet, enfin, je dirais même pas les écrivains, c'est un mot un peu…
littérature.
Voilà, ce qui parle à travers chacun, disons.
Oui. Alors, je pensais deux choses encore, mais ensuite, parce que je vous demanderai aussi peut-être de réagir, vous avez peut-être envie de dire quelque chose à Yannick. Ce qui me paraît important aussi, c'est que, puisque moi, j'ai effectivement choisi plutôt de parler de Hölderlin que de Nietzsche, parce que je pense vraiment maintenant que Hölderlin est quelqu'un qui voit plus loin que Nietzsche, même si on va s'interroger sur qu'est-ce que ça a été l'expérience terrible de par quoi il a dû passer, lui, pour en arriver là. C'est ça qu'on se dit, on doit dire à chaque fois. C'est pas de dire Dieu est mort, il n'a jamais dit Dieu est mort au dernier. C'est plutôt que Dieu ou les dieux se sont enfuis, ou plus exactement, Dieu ou les dieux se sont détournés. Ce qui veut dire il y a les dieux, mais ils manquent. Mais ils sont absents, ils ne sont pas simplement absents, ils se sont détournés. Donc à quelles conditions pourraient-ils de nouveau se tourner vers nous? C'est ça la question de Hölderlin, c'est pas tout à fait la question de Nietzsche, savoir. Et puis, sur Proust, c'est vrai que c'est très étrange d'avoir été cherché, intéressant d'avoir été chercher les sources de la Divonne. Il y a bien l'idée d'un espèce de carré sacré, quand même, là-dedans, c'est ça, qui est du côté de l'eau. Alors, ce qui me frappe, c'est qu'il y a effectivement la dimension de l'eau, là-dedans, les sources de la Divonne, qui sont peut-être de recherche de l'origine impossible, d'ailleurs. Hein. Mais en même temps, vous avez raison, l'effervescence, donc il y a de la vie là-dessous. Mais simplement, le mot sur lequel j'ai buté, une fois de plus, c'est le mot immanence. Vous avez rappelé, pourquoi immanence, là-dedans? Pourquoi immanence? Qu'est-ce qui est immanent? Pourquoi immanence? On n'aurait pas parlé d'extase depuis le début. L'extase, c'est bien le fait de sortir de quelque chose qui serait une intériorité, une suffisance à soi, donc une ouverture sur quelque chose d'autre, sur une altérité.
Oui, bien sûr. Là, il n'y a pas d'extase à proprement dit du l'avoir.
Non.
L'extase, c'est ce qui donnerait, disons, accès à ce qui crépite dans l'avoir. J'employais le mot d'immanence peut-être pour me faire comprendre, disons, et pour qu'on évite, disons, de sacraliser à travers ce lavoir carré de Proust l'idée d'un lieu d'où Dieu jaillirait, disons.
Mmh.
C'est pas dans mon idée, il ne s'agit pas de dire, voilà, il ne s'agit pas d'employer le terme immanence pour éviter la question du divin.
D'accord.
C'est, il me semble qu'ici, l'immanence donne accès, en tous les cas, dans cette presque parabole énigmatique de Proust, parce que ça n'est pas du tout commenté. Proust passe très vite, il n'y a que Christina Campo, à ma connaissance, dans ce livre admirable, qui s'appelle Les Impardonnables, qui relève cette petite phrase. Et elle dit que ça lui rappelle certaines formulations védiques.
Mm-hmm. Alors peut-être que vous avez envie d'échanger avec Yannick sur ce qu'il vient de dire.
Enfin, synthèse littéraire aussi qui l'a écrit. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter ou à commenter. Je trouve ça très beau, mais non, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a des trucs idiots, des gens, non, mais c'est idiot, mais bon. Enfin, il y a quelque chose de féminin là-dedans, mais bon. Les nymphes, c'est aussi, je veux dire, une énormité, mais c'est aussi les lèvres du sexe féminin. Bon. J'y crois qu'à moitié de dire ça parce que c'est féminin et masculin, mais je sais pas. Il y a aussi Dieu est tellement masculin, vraiment, que c'est pas mauvais aussi de faire un détour par des métaphores traditionnellement féminines, poétiques, etc. Donc c'est ce qui fait Proust là quand même. En plus, il est accompagné par Gilbert. Nietzsche, c'est tellement masculin. Hölderlin, c'est tellement masculin. Donc Proust, au moins, fait un détour par là. Voilà.
Questions dans la salle sur les deux interventions de Marie Dariussec et de Yannick Hennel.
Si c'est sur votre phrase le sacré et ce qui se libère dans la jouissance du langage. C'est vraiment tout Nietzsche qui est là-dedans. Lui qui a dit dans ses travaux préparatoires à la volonté de puissance, il dit d'une part que c'est le dieu moral que nous avons tué, c'est-à-dire le dieu qui dit tu dois. Et il dit aussi ne pas prier, bénir, c'est-à-dire ne pas employer les mots pour avoir, pour demander quelque chose, mais bénir comme Saint François d'Assise. Et là, on retrouve la jouissance du langage.
Seulement envie de protester contre la phrase de Marie Dariussec en toute estime que je vais citer maintenant. Nietzsche, c'est tellement masculin. il suffit de lire un peu dans les coins pour trouver dans les fragments posthumes, notamment de Nietzsche, mais même dans les œuvres publiées, toutes sortes de passages qui doivent absolument démentir une telle affirmation. Ne serait-ce que dans Par-delà bien et mal, cette déclaration liminaire selon laquelle les philosophes connaissent mal les femmes et que la vie est femme, qui dit ça, c'est une même Nietzsche. Si on regarde dans les posthumes, il y a plusieurs fragments posthumes dans lesquels Nietzsche décrit le monde, de ce qu'il appelle le monde de la volonté de puissance. Et le monde en allemand, c'est die Welt, c'est féminin. Et les métaphores sont entièrement féminines pour décrire les bouleversements, les marées, les monstrues de ce monde de la volonté de puissance. Donc, je voudrais protester.
Vous avez sans doute mieux lu Nietzsche que moi, d'ailleurs. C'est vrai, tout ce qu'on dit sur la misogynie de Nietzsche, c'est vrai qu'il y a une mauvaise lecture de Nietzsche sur ce point, puisqu'en fait, quand il... toutes ces pages apparemment très misogynes, en fait, il dénonce ce qu'est la femme à un moment donné du temps, qui est le 19e siècle, et l'aliénation de la femme. Et c'est comment déjà aussi, quand Rimbaud dit... Rimbaud a un peu le même genre de raisonnement, c'est-à-dire que quand Rimbaud apparaît misogyne, c'est au contraire pour dénoncer ce que pourrait être la femme. Et il y a sa lettre du voyant où il dit que la poésie sera féminine, enfin, que les femmes ont quelque chose à dire là-dessus. Oui, je... Disons qu'il y a... C'est aussi une protestation de ma part contre le fait que tous les écrivains dont on parle sont des hommes, là voilà, parce qu'elles n'ont pas pu forcer le passage sociologiquement. Voilà, on peut aussi voir ça comme ça. Enfin bon, il y a tout dans Nietzsche. Donc il y a aussi autre chose que ce que vous dites. Mais bon. Il y a quelque chose à dire là-dessus, Yannick ?
Oui, non, moi je pense que dans Nietzsche, mais pas que dans Nietzsche, il y a surtout des déesses. On parle de Dieu depuis tout à l'heure, mais au fond, c'est Nietzsche l'un des premiers, et je ne faisais que humblement suivre cette voie, qui indique que finalement, parmi toutes les expériences du sacré qui sont possibles, et qui sont possibles à travers le langage, ça consiste au fond, enfin, l'une d'entre elles consiste à faire advenir les déesses. Et voilà, un dieu, pourquoi pas, mais une déesse aussi, c'est pas mal.
Il y a tout de même Ariane chez Nietzsche, je veux dire, la place d'Ariane est dans le dernier Nietzsche, c'est fondamental. Celle qui va parler, celle qui va dialoguer avec le dieu, ça ne veut pas dire que ce soit facile pour elle à lire, c'est Ariane quand même. Le dithyrambe à Dieu d'Isos, c'est un texte, c'est le dernier texte de Nietzsche, hein. C'est quand même la figure d'Ariane, Nietzsche efface au profit de la figure d'Ariane. Alors, si on veut parler du masculin, je pense à un texte qui m'a toujours paru tout à fait sympathique et en même temps drôle. Et très brillant, c'est le texte de Derrida sur Lévinas, dans l'écriture de la différence, où à un moment donné, il dit cela, d'ailleurs, il dit à la fin de son raisonnement, dans lequel il explique d'ailleurs que Lévinas, sa position n'est pas possible, parce que dès qu'il décide de parler en métaphysicien, il parle grec, et donc comme il refuse de parler grec, donc il ne comprend rien à Heidegger. Et il ajoute à un moment donné que c'est évident quand on lit Lévinas que ça ne pourrait pas être écrit par une femme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le monologue de Gauly à la fin de ce texte en disant, parce que Lévinas n'a pas compris, c'est ce que dit Joyce dans le monologue, c'est ce que dit Gauly, à savoir que Jew Greek is Greek Jew. Et nous sommes tous à la fois Jew Greek and Greek Jew. Donc il donne la parole à une femme, précisément à la fin de son texte sur Lévinas. Voilà, c'est à ça que ça me faisait penser. Et là, peut-être qu'à mon avis, Derrida a en partie raison, certainement. Mais ce que Derrida a sans doute raison de dire sur Lévinas, je ne le dirai pas, moi, ni sur Nietzsche, ni sur Hölderlin. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de dire que Hölderlin est trop masculin? Je ne sais pas. Moi, enfin bon. Peut-être qu'on va pas rester une heure là-dessus.
Autre, disons qu'il est plus humide, plus aquatique. Voilà. Après, j'ai dit moi-même que c'était peut-être une idiotie, au sens où pourquoi l'humide serait plus féminin. Voilà. Après, Molly Bloom, ce monologue, est vraiment un alibi très souvent. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est écrit par un homme et.
Mais c'est écrit par un homme pour un autre.
Bon, c'est souvent un alibi.
Bon, y a-t-il une question dans la salle? Voilà, oui, il y a une question.
C'est bon? Ok. Donc en fait, c'était par rapport à notre affirmation, Madame Darrieussecq, d'être athée. Ça n'a pas peut-être paraître un peu naïf comme question, mais c'était simplement que sens cela peut-il avoir d'affirmer à la fois qu'on est athée et de prendre au sérieux le concept du sacré. C'était juste ça.
Ben, je crois qu'on ne parle que de ça, ici, justement. C'est-à-dire que on peut, c'est un peu ce que je disais à propos de Saint-Marie, je dis, il y a une expérience mystique, il y a une expérience du sacré, dont, entre autres, la littérature parle depuis toujours. Je sais qu'elle existe, je veux bien y croire, je n'y ai pas accès. Je pense que cette expérience mystique n'est pas nécessairement liée à Dieu, et qu'on nomme Dieu une absence, un vide, quelque chose où le monde se replie sur lui-même de quelque façon, enfin, une immense question. Alors, on peut la boucher avec Dieu. C'est pour ça que je suis athée. Moi, je pense que c'est fermer la question de répondre Dieu. Par contre, le sacré, lui, il existe. Le sacré, c'est cette question. Je ne vais pas la formuler, ça serait immédiatement écrasé. Mais en gros, c'est qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, c'est le sens. Donc, la littérature essaie de questionner ce sens sans y répondre. Et c'est bien l'effet déceptif de l'avoir de Proust. Ce passage est très parlant pour ça. C'est que quand on répond, on ne peut répondre que par quelque chose qui a l'air à côté, qui a l'air terriblement profane, qui a l'air comme ça très petit, très humble, très... Mais justement, parce que la question est immense et la réponse, elle est autre, toujours, toujours. Et dans ce déplacement-là, il y a du sacré, voilà. Mais c'est un sacré qui peut être totalement, oui, athée, en ce sens. Je ne réponds jamais par Dieu. Je réponds par des questions littéraires, par de l'écriture.
Dans la réponse que vous m'avez donnée, ben j'entends ce qu'on est en train de dire depuis un long moment aujourd'hui, c'est que la littérature, c'est un espace dans lequel on met en question, justement, la distinction du théisme et de l'athéisme, du profane et du sacré. C'est ça qui est entré en discussion, là. C'est cet espace de discussion dans lequel on est. Alors, on a raison de dire, mais vous dites que vous êtes athée, etc. Mais ça fait bouger les lignes, justement, tout ce qu'on est en train de dire.
Là où je comprends votre réaction, c'est que dire être athée, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, au fond. Tout le monde s'en fiche que je sois athée ou pas. C'est pas la question, justement. Donc, je le dis un peu incidemment pour montrer dans quelle direction je vais. Mais au fond, ça n'a rien à voir.
Moi, j'aurais voulu savoir si parler un peu de Bergson et du sacré était hors sujet aujourd'hui. Oui. On parle beaucoup de Proust, mais toute la filiation de la source de la Vivonne, elle naît chez Bergson, je pense.
La question s'adresse à qui
Un peu à celui qui veut me donner une.
Moi, je connais très mal Bergson. Je connais un peu ce que Deleuze en a dit, donc je ne sais pas comment je ça.
Vous connaissez mal Bergson, tous.
On entend très mal, je ne sais pas. On parle à qui et de quoi. Non, je ne suis pas un représentant de commerçant en Bergson. Je ne sais pas du tout.
C'est Bergson, Henri Bergson. Le philosophe Henri Bergson. Ah, très bien. Oui. Ah ben, le philosophe Bergson, ça nous conduirait à autre chose. Ça nous conduirait à reprendre la question de ce qu'on a appelé depuis le début de manière assez empirique, comme ça, pas toujours nette, la mystique, parce que s'il y a quelqu'un qui s'est exprimé sur la mystique, c'est Bergson, notamment dans son dernier grand livre qui s'appelle Les deux sources de la morale et de la religion, la morale fermée, morale sociale, morale close, et puis la morale ouverte qui est débutée, justement incarnée par ce qu'il appelle la mystique, cette espèce de sortie hors de l'immanence. Voilà, l'immanence, c'est la morale close, la mystique, c'est la morale ouverte. Voilà. Pardon ? Le rire. Ah ben, je ne sais pas. Le rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Voilà ce que nous a dit Bergson. C'est son interprétation, en tout cas. Mais je ne m'attendais pas du tout à faire un exposé sur Henri Bergson. Mais je suis ravi parce que c'est le premier philosophe que j'ai lu quand j'étais en première. Donc, je suis très content. Vous voyez, mes souvenirs sont encore faits, même si je suis né bien avant Yannick Hennel. Mais je me souviens encore du rire de Bergson. Ça ne m'a jamais convaincu, d'ailleurs, l'explication de Bergson.
personne sur le rire, comme la plupart des textes des philosophes sur le rire qui veulent expliquer le rire. C'est pas drôle d'ailleurs, ça ne fait pas rire du tout. Mais voilà. Mais Bergson a dit des choses tout à fait intéressantes sur la mystique dans les deux sources de la morale et de la religion. Alors, il y a aussi toute une mystique du vivant, de la vie, de l'élan vital qui est dans l'évolution créatrice et qui l'a rapproché des thèses par ailleurs condamnées par le Vatican, tout de même par le Saint-Siège, les thèses de Teilhard de Chardin, une espèce de rencontre de ce point de vue-là. Voilà. Est-ce que ma réponse vous apporte un petit peu de satisfaction? J'en suis ravi. Peut-être qu'on va clore cette table ronde, cette première table ronde, oui?
Encore une question.
La dernière, oui.
Oui, bonjour. Ma question s'adresse à Marie. C'est de ce côté-là. Bonjour. Ma question s'adresse à Marie d'Ariensac. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, dire ou considérer que l'athéisme n'est pas un paganisme et qu'on peut être athée et croire en Dieu?
Je crois qu'il y a après, il y a le mot agnostique. Hein, c'est peut-être plutôt ça que je suis. Enfin, si quelqu'un en a quelque chose à faire. Enfin, au fond, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas s'il n'existe pas. Je préférerais qu'il n'existe pas Dieu. Je me sentirais mieux. Mais donc, je ne suis pas sûre. Mais le paganisme, est-ce que l'athéisme est un paganisme? Non, c'est parce que le mot, ne serait-ce que parce qu'on a dit athée, après, ça vient de simplement l'étymologie de athée. C'est après le Christ qu'on en passe ce mot, non? Les Grecs disaient.
Le mot païen.
Il y a une histoire de chronologie des mots, là, je pense. Donc, je pense que c'est un anachronisme de dire que l'athéisme est un paganisme. Je ne sais pas pour répondre à votre question.
Enfin, on va se lancer dans une longue histoire de l'histoire des églises, notamment de l'église chrétienne, de la manière dont elle a mis en avant très tôt d'ailleurs la notion de païen, qui veut dire à l'origine celui qui habite la campagne, celui qui est loin des villes, donc de la religion des villes, probablement, je ne sais pas. Mais non, ça, alors là, la question du païen et du chrétien, c'est dans le christianisme. C'est tout ce qui n'était pas chrétien était païen. Les dieux grecs sont des dieux païens. C'est de là que Lévinas a tiré du même son hostilité définitive à la Grèce, que lui reproche violemment Derrida, et avec raison, à mon avis, dans l'écriture et la différence. Mais cette distinction chrétien-païenne est interne à l'histoire de l'Église chrétienne, et à mon avis, c'est le type même de notion qui devrait être mise en question aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire au XXIe siècle de parler encore de païens pour désigner ceux qui ne sont pas dans l'orthodoxie chrétienne, y compris l'ensemble des dieux grecs? Ça me paraît en contradiction avec ce que le pape, d'ailleurs, a dit très justement à Ratisbonne, à savoir que l'Église chrétienne, c'est elle qui a recueilli le trésor de la pensée grecque et de la sagesse grecque. Donc peut-être qu'il faudrait revenir sur cette idée que le divin grec est un divin païen, c'est-à-dire qu'il faut le rejeter. Peut-être peut-on clore alors sur cette question du paganisme qui nous ouvre encore d'autres horizons.
Excusez-moi.
Oui.
Ici.
Oui.
Désolé. Juste une dernière question, parce que j'ai très très envie d'avoir votre avis à propos d'Heidegger, l'importance qu'il accordait à Hölderlin. Et après la Seconde Guerre, de très très près à Ceylan, dans une interview au Spiegel, qui était la dernière interview qu'il a donnée, il conclut par une phrase, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, il dit « Seul un Dieu peut nous sauver ».
Peut encore nous sauver.
Peut encore nous sauver.
Oui, oh, voilà, alors là c'est encore une autre question.
Désolé, mais...
Non, mais c'est intéressant, c'est une phrase très importante. Oui, c'est Heidegger, dans l'entretien au Spiegel qu'il a donné, qui a été publié après sa mort, en 1976, seul un Dieu pourrait encore nous sauver. Mais justement, cette phrase, il faut la mettre en rapport avec ce qu'il dit de Hölderlin. C'est tout à fait clair, en fait, tout ça est très clair. Il ne dit que quelque chose qu'il a dit depuis très longtemps. Ça surprend parce qu'il le dit comme ça, et qu'apparemment, il ne l'a pas dit comme ça. Mais il n'a dit que ça. Si on lit bien la lettre sur l'humanisme de 46 ou 47, il dit la même chose. Il dit que la question du divin, pour lui, c'est Hölderlin qui l'apporte. Sans doute que sans Hölderlin, il n'aurait pas eu accès de cette manière-là, la question du divin, qui pour lui n'est pas séparable de la question de l'être et donc de la métaphysique. Et comment est-ce qu'on va enfin sortir de la métaphysique? Ben justement, par un retour, pourrait-on dire, à l'être même qui a été oublié, et l'être même, là où il se donne en même temps dans la guise du divin, disons. Et ça, qu'est-ce qui a la clé de ça? C'est là, pour lui, c'est le plus grand poète, c'est Hölderlin. Il dit d'ailleurs dans l'entretien, c'est le poète qui attend le Dieu. Et il dit, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour s'en sortir? Il dit, ben, il faut se mettre dans la position d'être ceux qui vont attendre le Dieu. Parce que le Dieu revienne, ça ne dépend pas de l'homme. Ça, c'est la transcendance qu'on sépare des guerres. Si Dieu est Dieu, l'homme ne peut pas le tuer. Donc, il n'est pas mort, il s'est retiré. Qu'il revienne, ça ne dépend que de Dieu. Ce qui dépend de nous, c'est de nous mettre en position de l'attendre, d'attendre sa venue. C'est tout. Et il dit, ne m'en demandez pas plus. Il demande, alors qu'est-ce qui va se passer pour sur Heidegger, qu'est-ce que vous dites sur l'avenir? Rien du tout. Moi, je dis simplement, préparons-nous parce que c'est tout. Essayons de lire Hölderlin et de comprendre Hölderlin, ce sera déjà beaucoup si on fait ça. Et pour le reste, il dit d'ailleurs, il y a une phrase violente, il dit que nous ne fassions pas que crever à la face d'un Dieu absent. Voilà. Que nous ne fassions pas que crever à la face d'un Dieu absent. C'est une phrase violente qui est très claire, à mon avis, pour moi, mais qui est dans la suite absolument logique de tout ce qu'il dit, au moins depuis la lettre sur l'humanisme, et probablement même avant. Et ça, je l'ai dit sous le contrôle de Gérard Guest, non, c'est plus que moi. Voilà. Alors là, je crois que c'était la dernière question. On va vous remercier tous les deux de votre présence.